Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, tu as presque genre... T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bon, bonjour à tous et bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission 100% vin sur Divergence FM. Aujourd'hui dans l'émission, on va parler d'un mot qu'on entend de plus en plus dans le monde du vin, l'œnotourisme. Alors derrière ce terme un peu sérieux, il y a une idée toute simple, faire venir les gens dans les domaines, pas seulement pour acheter une bouteille, mais pour vivre une expérience. Alors une balade dans les vignes, une visite de cave, un gîte, un escape game, un accord mets-vins, un moment en famille ou entre amis, bref, remettre du vivant, du paysage et de l'humain autour du vin. Et pour en parler, direction le Languedoc, les Corbières, avec Jeanne Fabre de la famille Fabre, une famille de vignerons et vigneronnes engagés depuis longtemps dans le bio, dans les Corbières et le Minervois, et qui fait partie de ces domaines qui ont compris très tôt que le vin se raconte aussi sur place, au cœur du terroir. Alors aujourd'hui avec nous, Jeanne Fabre. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Bon bah merci de venir jusqu'à nous pour cette émission dédiée au tourisme et au développement du tourisme dans le secteur viticole. Déjà, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter toi et le domaine?
Alors donc Jeanne, en effet, je ne m'aimais pas dans les pas de mes parents, grands-parents et une longue lignée de paysans, vignerons, investis sur leur terroir au cœur du Languedoc. Et moi, plus précisément, je ne cultive pas la vigne. Mon métier, c'est vraiment le tourisme. Ça peut paraître étonnant, mais j'ai fait un pas de côté. Pendant quelques années, j'écrivais des guides touristiques en Amérique latine. Et forte de cette expérience, et puis un petit mal du pays quand même, hein, quand on a des racines aussi ancrées, je suis revenue sur le vignoble familial pour développer notre tourisme à nous.
Bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que tu étais parti en Amérique latine. Bon, famille Fabre, alors comment ça se compose? Est-ce que si je te demande une carte d'identité, on va dire du domaine et des domaines, tu peux me la faire en 30 secondes?
Mais bien sûr. Donc, deux valeurs très fortes, famille et bio. Et cinq domaines en tout. Alors, c'est une histoire d'alliance en fait. Vraiment de famille. Donc au cœur du réacteur, Corbières et Boutonnac. C'est vraiment la famille Fabre, ses racines depuis 1605, on remonte. Et puis alliance avec ma grand-mère d'abord, qui a des terres à Béziers, qui nous permettent de faire du vin de Pays d'Oc très agréable. Et il y a quand même plus d'accès à l'eau là-bas. Et puis alliance avec ma mère et un domaine au château de Rieux, donc en Minervois.
Et qu'est-ce qui fait le lien entre finalement tous ces domaines?
C'est ce que je disais, vraiment une histoire de famille avant tout. Et puis bien sûr notre équipe, parce qu'on est 10% de la famille, mais pas mal de salariés, et qui partagent les mêmes valeurs, qui sont impliqués. C'est merveilleux, il y a des traditions, premier jeudi de chaque mois, on se retrouve. C'était ma mère avant, puis maintenant on cuisine et on partage un repas. Et ça, c'est un socle de l'entreprise.
Alors, quel est le domaine central, on va dire le headquarter quoi, chez vous?
Alors, c'est clairement le château de Luc, puisque là a lieu toutes les mises en bouteille, la commercialisation, c'est la vitrine, l'accueil du public. Les autres lieux sont des sites de production avec vignes et caves.
Donc, impossible d'aller les visiter, en fait, pour le commun des mortels.
En fait, ce qui est magnifique, c'est que vu que notre but, c'est d'offrir des expériences uniques, tout est possible. Mais pas tout le temps.
Bon, avant de parler du thème du jour, on va parler bio. Le bio comme point de départ chez vous. Famille Fabre est aussi connue pour son engagement envers la viticulture et le vin bio depuis des années. Et d'ailleurs, tu fais partie de Sud-Vin Bio aussi dans ton implication depuis des années. Pourquoi ce choix a été important chez vous?
Alors, pareil, hein, je reviens à cette histoire de famille, mais en fait, si on veut continuer la galerie des portraits qui ornent le salon jaune du château de Luc, vous verrez si vous venez.
Je m'en souviens.
Il faut prendre soin de ce qui nous nourrit, la terre. Et on s'aperçoit que des années de culture où on doit apporter sans cesse des nutriments, des produits issus de la chimie ne font que dégrader. Ça fait une culture à la fin qui n'est plus résiliente à rien. Et donc, il y a cet aspect un peu bon sens paysan, pas forcément au départ une illumination, mais plus se dire, en fait, je veux choyer la terre qui me nourrit.
D'accord, ok. Et pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, parce qu'on est quand même une radio grand public, comment tu expliques simplement ce qu'est un vin bio ? Comment on pourrait le définir tout simplement ?
C'est très simple, c'est l'absence de produits à origine de chimie de synthèse. Donc c'est vraiment simple, ni dans la vigne, donc pas d'engrais, pas de pesticides, pas d'insecticides. Et donc les seuls produits utilisés sur les feuilles des vignes pour traiter contre certaines maladies, c'est le cuivre et le soufre qui existent de manière naturelle. Voilà.
Bon, est-ce que le bio aujourd'hui fait partie de ce que les visiteurs viennent chercher quand ils poussent la porte de chez vous, par exemple ?
Alors, c'est ça, c'est vraiment intéressant parce que pas nécessairement. On a une variété incroyable de visiteurs et je pense qu'il tient à notre engagement d'offrir des expériences avant tout. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont goûté nos vins et qui vont venir les chercher. Mais c'est merveilleux. Hein. Dans la même visite, j'ai déjà eu des Russes et des Ukrainiens, une petite famille,
Pas de bagarre ce jour-là.
Pas de bagarre. La dernière, c'était génial. C'était une bande de filles qui bossaient à Barcelone et il y avait tous les pays d'Europe centrale présents. Et donc, c'est des curieux. C'est des gens, parfois des épicuriens, qui vont au grand buffet après ou qui vont à la mer. Parfois des familles qui viennent parce qu'elles sont contentes de voir qu'on prend en charge toute la famille. Il y a des dégustations de jus pour les enfants. Il n'y a pas une exclusion de certains types de publics. Depuis récemment, on a même le label « dog friendly ». Il y a une gamelle pour les chiens.
On fera une émission dédiée à ça, je te le promets. Bon, on arrive bientôt en saison estivale, donc le no-tourisme va bombarder, entre guillemets, sur juin, juillet, août. Si tu devais définir ce mot « no-tourisme », tu dirais quoi ?
Alors, c'est vrai que c'est bizarre, mais ce mot « no-tourisme », il n'est pas très compréhensible. Il est difficile parce qu'il n'est pas transparent dans d'autres langues. Et donc, j'avoue que je l'utilise assez peu. Donc je peux le définir comme le fait de partager des expériences au cœur du vignoble, pas forcément dans la consommation de vin d'ailleurs, mais pour moi le plus important c'est vraiment de partager un moment authentique. Alors je sais que ce mot authentique est un peu galvaudé, mais en fait c'est le mot le plus juste pour décrire ce que vivent les gens chez nous. Ils sont pas dans la consommation, ils sont vraiment dans on partage le vécu d'une famille et c'est là que le bio revient en fait. Il n'y a pas d'artifice.
Alors pourquoi c'est devenu important aujourd'hui pour les domaines viticoles de créer ce lien direct avec le public ?
Plusieurs raisons. Je pense que c'est un besoin aussi des vignerons, un besoin d'entendre aussi le retour des consommateurs, d'être en prise directe. On est marchand de plaisir, de bonheur, hein, c'est ça, on peut vivre sans vin en fait, pour de vrai, il suffit de boire de l'eau. Et du coup, ce qu'on vend nous, quand on vend du vin, c'est vraiment un art de partager, de vivre ensemble, quoi. Et donc c'est essentiel pour nous de le voir, ça nous motive. Ça, c'est une chose. Et puis, d'un point de vue économique, c'en est une autre. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une déconsommation au niveau mondial du vin, un relais qui n'est pas pris par les jeunes générations. Et donc, c'est essentiel de diversifier l'activité. Et clairement, par exemple, mon Escape Game, pour ne citer qu'une de nos 26 expériences, c'est clairement une entrée d'argent non négligeable.
Bon bah là tu viens de rentrer dans le vif du sujet, c'était les prochaines questions. Et concrètement au château, qu'est-ce que les visiteurs peuvent vivre comme expérience ? Je viens de citer l'Escape Game, mais il y en a 26 autres.
J'en ai compté 26, j'étais choquée. On est très créatifs, j'ai une merveilleuse équipe, Fanny et Mélanie, qui portent ce projet avec moi. Et c'est vrai qu'à la fois c'est une affaire de rencontre, donc de personnes, il faut incarner. quelle que soit l'activité. Et puis à la fois, on a nos spécialités. Donc il y a deux fils rouges. Le fil historique, on fait vivre aux gens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs attentes, l'épopée du midi viticole. L'idée, c'est de raconter en trois objets qu'est-ce qui a façonné nos paysages, notre société, pourquoi le Languedoc produit autant de vin. Et pourquoi aujourd'hui on en arrive à tous ces châteaux pinardiers et tout. Et ça, ça passionne les gens parce qu'ils en ont un peu assez qu'on les prenne pour le touriste de base. Ils aiment bien les vraies histoires en fait, surtout si elles sont un peu théâtrales. Donc ça, c'est la base. Et puis c'est décliné pour les enfants en escape game, enfin tout ça. Et puis l'autre fil qu'on tire et qu'on décline et qui est important, c'est justement l'appropriation de toutes ces thématiques autour de la biodiversité, du respect de l'environnement. Donc il y a une visite pour enfants dédiée là-dessus, il y a des balades guidées. On vient de créer une visite métier où on met en valeur les métiers du vigneron et à chaque étape, les gestes qu'on fait pour limiter notre impact sur la planète, voire pour être dans une optique régénérative.
Alors, petite écartade sur le sujet. Par rapport à notre sujet du jour, bon, je suis venu au domaine il y a quelques années, mais pas tous nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez mis en place en termes agroécologiques ? Parce que c'est quand même assez sensible chez vous. Voilà, raconte-nous en quelques minutes.
Alors, c'est intéressant. On vient on est très heureux d'avoir le label BioED. C'est un label qui permet de valoriser un engagement 360 degrés en responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire que ce n'est pas juste bio, ce que je vous décrivais précédemment, qui concerne la production, mais ça va jusqu'à l'éco-packaging. Comment j'ai moins d'artifices, de bouteilles en verre qui pèsent, de capsules, de comment je fais pour les bouchons. Enfin, toutes ces réflexions-là, l'emballage, la consigne, comment je m'inscris dans des réseaux pour faire revenir les bouteilles. Donc ça, c'est une logique. Et puis, il y a aussi toute cette logique d'éducation du public, là on revient dans le tourisme, mais d'adhésion des fournisseurs. Donc là on a invité tous nos fournisseurs qui le pouvaient à venir pendant toute une matinée s'interroger ensemble. C'est un peu un comité des parties prenantes en fait, pour voir peut-être qu'ils pouvaient nous donner des idées pour aller plus loin. Et puis ça fait réfléchir les salariés sur leurs pratiques. Donc on a des journées d'entreprise là-dessus. On a fait ensemble, je leur ai animé la fresque du climat il y a quelques années, puis on est allé plus loin. Et donc l'idée, c'est pas du tout de remplir un rapport RSE une fois par an. C'est vraiment de mettre en marche, de se questionner et d'aller sans cesse interroger notre rôle sur cette terre.
Ok, c'est intéressant parce que tu fais vraiment le lien, même dans les pratiques agroécologiques, il y a de l'éducation et du coup de l'onotourisme, c'est ça qui est hyper intéressant. J'aimerais revenir à l'escape game. Comment ça vous est venu cette idée ?
Alors, c'est intéressant, c'était le moment où on structurait le no-tourisme, parce que, en fait, mes parents ont toujours eu ce sens de l'hospitalité innée en Languedoc, et bien sûr qu'ils accueillaient les gens, mais il n'y avait pas d'activité à proprement parler. Et donc, moi, je suis revenue il y a 10 ans tout pile, je fête mes 10 ans, et assez rapidement, par mes goûts personnels, je voulais embarquer les gens dans l'histoire, parce que je trouve que dans l'histoire, il y a toutes les clés de compréhension d'aujourd'hui. Et puis, assez rapidement, je me suis aperçue que, en fait, je perdais toute une frange d'un public que je veux toucher précisément, parce que c'est potentiellement des gens qui ne sont pas tellement intéressés par le vin, qui n'ont pas cette curiosité parce que c'est pas transmis par leur éducation, parce que c'est des jeunes qui sont pas dans ce genre de visite de domaine. Et là, je sais pas pourquoi, cette histoire d'escape game a vraiment, vraiment résonné, parce qu'il y a un côté très très ludique. C'est vraiment un escape game pro, hein. C'est pas un jeu de prise un peu bricolé dans une cave. Il y a un super ami qui a une très belle salle d'escape game à Juvignac, Instinct Escape, qui
vous a aidé à...
qui était bloqué par le Covid, qui ne pouvait plus travailler. et du coup qui nous a aidé à construire la salle avec des mécanismes dans les faux plafonds. Enfin, c'est génial parce que
c'est très varié.
Ça a pris
combien de temps du coup à se construire tout ça ?
Alors ça a été long. C'est toujours pareil, ça c'est un petit conseil pour les auditeurs qui veulent se lancer dans l'œnotourisme. C'est qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut faire les choses bien. Et typiquement, on l'a fait à l'étage d'une cave et le sol vibrait quand on est excité, là, à 10, parce que c'est un escape game pour 10. Et donc, on a été obligé de couler une dalle pour stabiliser.
Ah oui, d'accord.
Et pour pas que les gens aillent dans les cuves en dessous aussi.
Ok, ouais, c'est mieux, oui.
Voilà, donc c'était un peu de travaux quand même, ça a pris 6 mois.
Donc, et c'était mis, du coup, ça a 5 ans maintenant
C'est ça, 6 ans.
Ok.
On arrive à 6 ans.
Bon, bah, et retour d'expérience, combien de personnes par an ? Enfin, est-ce que tu as. Voilà, parle-nous un peu peut-être des chiffres, de la réussite, comment ça se passe ?
Alors, c'est intéressant déjà au point de vue qualitatif, on attire vraiment des gens qui ne viendraient pas dans un domaine viticole.
Ça, c'est
vraiment
ça.
Une réussite.
C'est une vraie diversification.
Et,
ouais.
Et la plupart d'entre eux, en sortant du jeu, demandent à poursuivre avec une dégustation et sont curieux. Et puis, ceux qui sont... il y a des familles, il y a des gens du coin, il y a des étrangers, on le fait en anglais aussi. Ce que j'aime, c'est de me dire, ils repartent en sachant c'est quoi la crise des vignerons de 1907. En fait, c'est l'idée, c'est de mener l'enquête pour sauver le midi viticole. Et il y a tellement de résonance avec aujourd'hui, nouvelle crise, comment on sauve notre midi viticole. Et donc c'est intéressant parce qu'on part souvent dans des vraies réflexions assez philosophiques et engagées avec des gens qui sont venus jouer. Et l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Ils passent un très bon moment. On a beaucoup d'enterrements de vie de garçon, de jeune fille. C'est un peu spécialisé sur ce créneau, sans le vouloir. Mais c'est pas de la consommation. Là encore, c'est des gens qui viennent jouer. Ça les éveille à un intérêt. Et voilà, ils sont curieux après.
Bon, bah, j'en profite pendant que tu es là, parce que en plus d'être impliqué dans ton domaine, dans ton appellation et même dans le vin bio, tu connais forcément un peu les challenges que le monde viticole est en train de traverser, notamment la crise. Quel est ton regard par rapport à ça ?
C'est intéressant parce que souvent on entend les vignerons, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Une fois il fait trop chaud et trop sec, une fois il y a trop de pluie, il y a des maladies. Et certes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec l'impact du changement climatique, notre vulnérabilité est accrue. C'est-à-dire que c'est un petit peu les mêmes coups du sort du climat, mais sauf que c'est tous les ans, tous les deux ans. Avant, c'était tous les 10 ans. Donc, on n'a pas le temps de se refaire, entre guillemets. Donc, il y a une claire conscience de la vulnérabilité de notre activité face à cet emballement du réchauffement climatique. Bon, ça, c'est une chose qui nous met en mouvement, qui nous fait réfléchir sur tout un tas de choses et pas que dans la viticulture. Et ça, c'est très intéressant. Là, par exemple, l'été dernier, 17 000 hectares qui brûlent dans les Corbières, bien sûr qu'il y a un avant et un après. Bien sûr, moi, j'habite à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Je regarde plus comme avant.
Le village qui a été entouré par les flammes l'an dernier.
Et je regarde plus comme avant les bords de route. En ce moment, ils sont déjà grillés par le soleil et ça fait peur. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des réflexions qui mettent en mouvement. On ne peut pas rester passif parce qu'on est au pied du mur. Ça accélère beaucoup de groupes de réflexion, des actions, des associations qui se bougent. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, quand tu parles de crise, j'imagine que tu pensais plutôt à la crise de la consommation.
Aussi, oui.
Et ça c'est, je trouve ça beaucoup plus... on en parlait encore à l'instant avec le conseil d'administration Sud Vin Bio. C'est beaucoup plus impactant, déprimant, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... on n'a pas trop la main. Il y a toute une génération qui est peut-être pas intéressée par nos produits. Et du coup, en fait, on peut avoir une résilience folle devant des coups du sort qui nous dépassent de la nature. Mais quand on se dit qu'on produit quelque chose qui potentiellement n'intéresse pas une grande partie de la population, là, c'est beaucoup plus grave. Et c'est là que moi, je veux agir dans le no-tourisme. C'est de capter un intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on veuille faire boire les jeunes à tout prix. C'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'on veut susciter un intérêt qui est perdu faute d'informations parfois. Parce que s'ils venaient, ils verraient que c'est génial.
C'est une super transition. Et je voulais revenir au public et le lien au vin, quelque chose de plus chaleureux. Est-ce que tu sens que les visiteurs qui viennent au domaine pour faire de l'œnotourisme, en escape game ou autre, ont envie de comprendre davantage ce qu'ils boivent ensuite ?
Clairement, et il y a ce côté aussi dans la manière de guider une dégustation. Il y a des gens qui arrivent, qui s'excusent à la porte du caveau. Désolée, j'y comprends rien. Et je leur dis, mais en fait, qui vous a dit qu'il fallait comprendre? En fait, c'est ça la grave cause de la crise, je trouve. C'est ces propos élitistes détenus par une toute petite frange de la population qui justifie sa place en utilisant des mots très compliqués que les vignerons n'utilisent pas, qu'on se le dise. Et en fait, il y a un travail d'abord, je trouve, de désacralisation du vin, où en fait, c'est du plaisir. Et comment tu caractérises ce qui te fait plaisir? Et comment tu trouves les mots, les tiens de mots, pas les mots de quelqu'un d'autre? Et en fait, du coup, on a créé des jeux, on a un casino du vin où les gens ils jouent au poker en dégustant à l'aveugle, ils sont en compétition. Et ça fait tomber ces carcans-là et ils s'éclatent, les gens. Et après, ils reviennent en famille et ils veulent... J'ai beaucoup de gens qui viennent faire les différentes expériences, je ne sais pas, une fois par an, parce que ça crée une curiosité. Après, on a le Cluedo géant où il faut mener l'enquête. Et chaque fois, on veille à transmettre une partie de notre passion.
Bon, la question que je vais te poser, tu pourrais dire oui ou non, mais il faudra développer quand même. Est-ce que le no-tourisme permet du coup de rendre le vin plus simple, plus accessible et moins intimidant?
J'espère.
Mince, le troisième.
J'espère. En tout cas, je le sais chez nous avec ma super équipe, oui. On voit des jeunes couples qui arrivent un petit peu gênés de se retrouver là parce qu'ils ne s'attendaient pas à un grand château. Ils ont booké sans réfléchir sur Airbnb ou autre parce qu'ils étaient dans le coin et qu'il n'y avait pas d'autres activités ouvertes le samedi. Et le fait de les mettre en confiance, qu'ils soient tranquillement installés en terrasse, au soleil, et d'échanger vraiment sur leur goût, mais c'est génial. Parce qu'après, ils disent, mais en fait, où est-ce que je peux vous retrouver? Et je vais revenir avec des copains. Et puis, donc oui, ça fait tomber des barrières, c'est clair.
Et tant mieux. Bon, est-ce que le no-tourisme peut aider à changer l'image de notre belle région du Languedoc en montrant, je sais pas, une région plus moderne, plus bio, plus créative? Qu'est-ce que tu peux en dire?
Alors, moi, je dirais presque pas la changer, juste la faire connaître. Parce que en fait, y a une image qui nous colle à la peau, mais qui date du 19e, hein, dans Languedoc, producteur de carburant pour les foules ouvrières. Donc, cette image, elle n'existe plus pour de vrai. Elle existe dans les jeunes générations, je veux dire. C'est pas ça, le frein. Et donc, aujourd'hui, c'est de faire connaître. En fait, on est inaudible pour beaucoup. Et donc, je pense que le no-tourisme est forcément un levier pour parler de ce qu'est le Languedoc dans sa diversité. Je me méfie d'une image, il en faut plein.
Ah, tu m'étonnes, c'est clair. Bon, alors, pour terminer, une question ouverte à cette fois-ci. Pas un « est-ce que », mais plutôt un « comment tu vois le vignoble du Languedoc de demain ?»
Une mosaïque, quelque chose de fantastiquement divers et assumé. Où le point commun, ça serait prendre soin de notre terre, de nos savoir-faire aussi. Et ce côté comme un laboratoire en ébullition permanente. En fait, en Languedoc, il s'est toujours inventé des choses, depuis toujours. Parfois faute de moyens, parfois devant au pied du mur, devant une crise. Mais on est un fantastique laboratoire à ciel ouvert. Et ça, je pense que c'est un atout merveilleux et il n'y a qu'à le faire savoir.
Eh ben, merci pour cette belle dernière note. Merci d'être venue, Jeanne, nous rencontrer ici au studio. Et puis, on vous souhaite une belle saison estivale remplie de nos tourismes.
Merci. N'hésitez pas à venir au Château de Luc.
Et surtout, n'oublions pas que l'alcool est à boire avec modération, il faut le dire. Et voilà, rendez-vous sur votre site internet famifabro.fr, c'est bien ça?
.com.
J'avais une chance sur deux. Merci beaucoup, Jeanne. Au revoir.
Au revoir.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin. C'est un plaisir très intellectuel que presque
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.